Les Midi de Culture, c'est reparti. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. À 13h, je recevrai la chorégraphe Blanca Lee. Mais pour le moment, c'est le Point Culture et c'est Marie Sorbier.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Les librairies ont-elles un rôle à jouer dans la santé mentale des lecteurs? Une récente lettre ouverte engage la responsabilité des libraires concernant les ouvrages scientifiques et pseudo-scientifiques qui se multiplient et se mélangent parfois sur les tables des librairies. Alors comment distinguer les ouvrages sérieux de ceux qui prônent des méthodes magiques mais dangereuses pour la santé? C'est le dossier du Point Culture du jour. Michael Vamps, Herminger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en santé publique, enseignant et auteur. Vous avez écrit notamment en 2023 « Vivre avec un trouble de santé mentale » qui avait comme singularité de réunir la vision du scientifique et celle du malade, puisque vous êtes concerné directement par la maladie mentale. Avant de parler de la pétition que vous venez de lancer et qui nous occupe aujourd'hui, la santé mentale a été décrétée grande cause nationale 2025. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la parole se libère sur ces sujets-là et que c'est vraiment une grande cause en 2025?
Alors, c'est une bonne remarque, justement, parce qu'on est quasiment au mois de juin, maintenant. C'est vrai que cette grande cause a été annoncée à l'automne 2024. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal un peu à voir où va cette grande cause et en quoi elle consiste, parce qu'il n'y a pas forcément d'annonces qui ont été faites. Et puis, il n'y a pas forcément d'évolution non plus en termes de prise en charge, en termes de système de soins. On voit qu'il y a de plus en plus de ruptures de stock sur de plus en plus de psychotropes qui peuvent provoquer des rechutes ou des décompensations qui peuvent être assez importantes. Donc, on a un peu du mal à voir où est la grande cause aujourd'hui. Alors, c'est très bien qu'on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que les personnes qui acceptent d'en parler publiquement sont des personnes qui sont bien insérées, qui jugent qu'elles n'ont pas trop de risques à le faire. Donc, voilà, il y a aussi ce souci-là, c'est à quel point, en fait, les personnes qui acceptent de s'exprimer sont représentatives de la situation un peu moyenne.
Alors, c'est ce qui nous amène à notre sujet du jour, dans la pétition que vous venez de mettre en ligne. Vous vous adressez aux libraires, car ils ont, selon vous, un rôle à jouer sur ces questions de santé mentale. Vous leur demandez d'aider, en fait, finalement, leurs clients à distinguer les livres écrits par des professionnels et les autres.
C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se renseigne pas mal sur les réseaux sociaux, mais certaines personnes sont aussi en recherche d'aide sur d'autres canaux, et notamment en librairie, avec des livres qui peuvent être plus ou moins sérieux, et dont d'ailleurs, il est souvent question sur les réseaux sociaux, avec des personnes qui ont une grosse communauté, qui vont promouvoir justement leur livre. Ce qui est important à noter, c'est que le marché du livre santé, il est quand même en baisse depuis 2022. Mais le truc, c'est que les questions de santé mentale, développement personnel et un peu ésotérisme, ces catégories sont souvent assez largement fusionnées, sans vraiment de distinction, portent encore ce marché. Et le syndicat national de l'édition dit d'ailleurs, dans son dernier rapport d'activité, que les sujets de santé mentale et développement personnel sont la plupart du temps confondus avec l'ésotérisme. Donc c'est un constat même qui est fait par le syndicat national de l'édition, alors que ces livres-là de santé mentale et développement personnel, voilà, j'ai dit, on peut pas vraiment le distinguer parce que dans les statistiques, souvent c'est mis ensemble, ça constitue quand même un tiers des livres qui sont lus par les Français et plus de la moitié des livres qui sont lus par les jeunes de 20 à 24 ans. Donc on est quand même sur une proportion importante de personnes qui, en tout cas, accèdent à ces contenus qui ne sont pas forcément toujours très sérieux.
Mais alors, très concrètement, je me mets à la place d'un libraire. Comment faire pour distinguer un livre qui est écrit par un professionnel et qui est donc sérieux sur le sujet dont il parle, et puis un autre avec les dérives sectaires que vous évoquez? Parce que parfois, il ne suffit pas d'être médecin, je veux dire, pour écrire un bon livre. Donc comment le libraire, lui, peut trier, ce mot n'est pas très joli, mais en tout cas peut classer les livres entre ceux qui sont sérieux et ceux qui peuvent potentiellement faire du mal au lecteur.
C'est une bonne question, justement, parce que le libraire n'est pas seul dans cet écosystème. Il y a aussi les éditeurs qui, parfois, envoient des communiqués de presse qui ne sont pas tout à fait exacts, ou en tout cas qui mettent en avant des choses qui, finalement, quand on n'est pas forcément informé dans le domaine, peuvent paraître cohérentes, pertinentes, mais qui ne le sont pas forcément. Je reçois pas mal de communiqués de presse, justement, d'éditions qui proposent de m'envoyer, justement, pour mes activités, des livres qui souvent frôlent vraiment les choses un peu absurdes, de la naturopathie quantique, des trucs vibratoires, etc. Et pourtant, c'est chez des grands éditeurs qui ont pignon sur rue. Donc, c'est ça qui est aussi problématique, c'est que comme ce marché-là est dynamique, les éditeurs ont aussi un rôle à jouer. Alors, ça, c'est pas du tout pour censurer des ouvrages. Ces ouvrages peuvent tout à fait trouver un public, sortir et se trouver dans les rayons des libraires. Mais en tout cas, d'avertir que ces choses-là ne sont pas fondées sur des preuves, ne sont pas fondées scientifiquement, et que la consultation avec un professionnel est quand même nécessaire quand il y a une souffrance et une vulnérabilité qui sont quand même importantes. Et ensuite, en général, les libraires ont quand même un rôle de conseil, justement, envers leurs clients. Et c'est vrai qu'en feuilletant un peu les ouvrages, ou en regardant les quatrièmes de couverture, ou en s'intéressant un peu à qui sont les auteurs, ça peut quand même permettre de voir à quel point l'ouvrage est sérieux. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas besoin d'être médecin pour écrire un bon livre. Il y a des journalistes qui font des très très bons livres sur le sujet. On peut parler par exemple de Maud Leresse, qui a sorti un livre sur la santé mentale des hommes, qui est vraiment très sérieux. Voilà, elle n'est pas médecin, elle est journaliste. Le livre de Laure Dazinière sur la santé des hommes après 40 ans, elle est aussi journaliste et elle est extrêmement sérieuse. Donc, y a des choses qui sont quand même très sérieuses hors du cadre médical, mais c'est vrai qu'on voit souvent des recommandations dans les librairies, voilà, sur plein de livres, de dire bah, ce livre est vraiment bien, c'est un must-have, un must-read.
Oui, ou vu sur les réseaux sociaux, qui est maintenant une façon aussi de vendre et qui est peut-être la plus dangereuse. Parce que vous le parliez, il y a en effet, quand vous dites dérive sectaire, c'est vrai que c'est des mots qui font peur, mais il y a quand même des livres qui peuvent faire du mal, selon vous, en tout cas à des lecteurs qui seraient touchés par la maladie mentale et peut-être un peu plus fragiles à ce moment-là de leur vie que d'autres.
Bien sûr, il y a des contenus qui sont vraiment de mauvaise qualité, hein, qui passent pas. Ce qu'on dit pas beaucoup, c'est que les livres, hein, qui sortent comme ça grand public sont pas du tout soumis à une revue par les pairs comme les articles scientifiques. Donc on peut dire un peu tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à un cas très général, quand on publie un livre de manière grand public général sur une pathologie, on va parler par exemple de pathologies dont on parle de plus en plus, c'est les troubles de l'attention. Finalement, il y a des choses qui peuvent s'appliquer à certaines personnes, d'autres qui peuvent ne pas s'appliquer à ces personnes-là, qui peuvent provoquer justement des aggravations. Quand on parle d'anxiété, de troubles dépressifs et autres, sur l'anxiété, par exemple, qui est quand même un des troubles les plus fréquents avec la dépression, souvent on va dire aux personnes, faites des exercices de respiration, de méditation de pleine conscience. Pourtant, la littérature scientifique aujourd'hui montre que la méditation de pleine conscience est contre-indiquée justement dans les troubles anxieux, parce qu'elle peut provoquer justement, avec ce fait de rester tout seul avec ses pensées pendant plusieurs minutes, des crises d'angoisse finalement. Et c'est des choses qui sont quand même encore pas mal relayées aujourd'hui, c'est que justement l'adaptation doit être faite au cas par cas par un professionnel, ou en tout cas avoir une certaine nuance qui souvent n'est pas présente dans ces livres-là. Après, c'est très compliqué quand on n'est pas dans le domaine, en tout cas, de savoir ce genre de choses-là, y compris pour les libraires. Mais c'est vrai qu'un peu plus
de vigilance, finalement.
De vigilance, oui, peut être finalement assez importante, parce que je ne sais pas si vous avez connaissance du rapport de la Miviludes qui est sorti le mois dernier, donc le dernier rapport d'activité. On a quand même presque 40% des signalements qui concernent la santé. Mmh. Et notamment, parmi ces signalements-là, on a 80% des personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, donc qui prétendent parler de santé, mais qui en réalité n'ont pas grand-chose à voir avec le domaine professionnellement et qui provoquent des dérives sectaires ou des comportements dangereux, à risque, des ruptures de traitement, des retards de soins, comme ça peut se voir dans d'autres pathologies aussi. On a vu Thierry Casasnovas, par exemple, récemment, qui a été condamné justement pour sa promotion buvez une soupe de courgettes et vous serez guéri de votre cancer. Voilà, on a un peu parfois ce genre de choses-là qui sont envoyées dans les livres et aussi à côté.
Merci beaucoup, Michael Worms, Herminger. On retrouvera le lien vers votre pétition sur la page du Point Culture.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la Maison des écrivains et de la littérature à Paris va fermer ses portes en juin.
L'urgence est telle que la cessation est imminente, a alerté sa directrice Sylvie Goudbaron. En l'espace de 2 ans, les subventions que lui verse le ministère de la Culture ont baissé de 60%. Un coup porté à cette maison qui organise depuis près de 30 ans des interventions d'écrivains dans les classes. 30 000 élèves ainsi que 10 000 étudiants pouvaient ainsi rencontrer des auteurs chaque année. La mission de cette institution est aussi d'organiser des rencontres littéraires et d'accompagner les écrivains dans leur travail.
Et pour finir, Marie, la promenade des Anglais, un nouveau monument historique.
Oui, à Nice, la Villa Masséna vient d'être classée au titre des monuments historiques. Construite entre 1898 et 1901, la grande villa de style néoclassique italien abrite le principal musée de la ville consacré à l'histoire locale, l'art et la vie niçoise. Elle est entourée d'ailleurs d'un jardin de 8000 m2, récemment labellisé remarquable. Sortie pour ce week-end peut-être.
Oui, filons tous à Nice.
Filons tous à Nice.
Merci Marie. La semaine prochaine, ce sera Nicolas Herbeau qui mènera le Point Culture. À bientôt Marie.
À bientôt.